Vous le constatez à nouveau dans la deuxième vague, la situation est inquiétante dans certains CHSLD, dans certaines résidences pour personnes âgées. C'est l'un des sujets que nous allons aborder avec notre prochaine invité, en plus aussi de parler du fait que on constate que désormais au Canada, les hommes ont une espérance de vie pour la première fois de l'histoire qui atteint l'âge des 80 ans, tout un plateau. Alors, abordons ces sujets-là avec notre invité. Il s'agit du docteur David Lucier, qui est gériatre. Docteur Lucier, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que le feu est en train de reprendre dans certaines résidences pour personnes âgées ou CHSLD?
Bien, en fait, le feu a pris dans quelques CHSLD, entre autres dans la région de Joliette, là, à Saint-Eusèbe, sur la rive sud, dans quelques CHSLD aussi. Aussi maintenant, malheureusement, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le feu a déjà pris dans des CHSLD. Le feu est éteint dans plusieurs de ceux-là, heureusement. Donc, il y en a eu des CHSLD où ça a été très, très, très difficile. Il y en a d'autres où c'est encore très difficile. Mais on est loin de ce qu'on a connu au printemps, entre autres dans la région de Montréal.
Donc, vous constatez qu'on a appris certaines choses. Et d'ailleurs, la phrase la plus rassurante que vous avez prononcée, en tout cas de mon point de vue, c'est que le feu est éteint. Donc, on réussit à mieux circonscrire les éclosions dans les foyers?
Oui et non. C'est-à-dire que le feu est éteint dans certains. Il y en a d'autres où le feu n'est pas éteint encore. Là, il y en a certains à Montréal, il y en a au Lac-Saint-Jean. Donc, dans la grande majorité des CHSLD où il y a eu des cas, ça a été limité à quelques cas. On le voit bien là, dans les données qu'on a à chaque jour. S'il y a eu un cas, deux cas, trois cas, des fois cinq, six. Il y en a quelques-uns où il y en a eu un très, très, très grand nombre. Ce que ça nous dit, c'est que oui, on a appris au printemps. Ce qu'on voit aussi, c'est que la très grande majorité des endroits où il y en a eu beaucoup cet automne, c'est des endroits qui n'en avaient pas eu au printemps. Donc ça, c'est à la fois rassurant et inquiétant. C'est rassurant parce que les endroits qui en ont connu beaucoup au printemps semblent être épargnés jusqu'à maintenant. Mais c'est inquiétant parce que c'est comme si l'expertise qui a été acquise au printemps s'est pas transposée, malheureusement, dans les endroits qui l'ont pas connu avant.
Comment expliquer ça?
C'est difficile à expliquer. On espérait que ce soit le cas, mais ça semble pas être le cas. Le ministère parle beaucoup des SWAT teams qu'ils ont développés. Donc, je ne sais pas quand ces équipes-là sont déployées dans les CHSLD. Peut-être qu'il faudrait y aller de façon plus précoce. Peut-être qu'on attend trop tard avant d'envoyer ces équipes spécialisées là pour aider les équipes locales. Donc, c'est peut-être une des choses qu'on pourrait envisager pour essayer de mieux contrôler et plus précocement dans tous les milieux. Même chose dans les résidences privées, où là aussi, il y a des résidences qui sont très, très, très atteintes actuellement. Peut-être qu'il faudrait intervenir plus précocement puis plus agressivement dans ces endroits-là.
Vous faites allusion aux SWAT teams, aux équipes d'intervention, puis c'est drôle parce qu'on constate que souvent les problèmes sont dus au fait, on n'a pas transmis la connaissance, l'expertise acquise pendant la première vague. Est-ce que ça va prendre un SWAT team de communication, un SWAT team d'intervention pour tout de suite intervenir auprès des foyers qui se sentent un peu... Qui sont déstabilisés par le fait que l'épidémie les atteint alors qu'ils s'en sont sortis pas trop pire dans la première vague?
Ben, ça en prend, oui, ça en prend. Le ministère est censé en avoir pour le CHSLD. Je suis pas certain si ces SWAT teams-là interviennent aussi dans les résidences. On sait quoi faire maintenant. On l'a tellement fait à Montréal. On sait quoi faire pour prévenir l'éclosion, les manières de protection de prévention et contrôle des infections, quoi faire avec les zones chaudes, quoi faire de façon pratico-pratique avec les cas de COVID. Donc ça, on le sait. On sait aussi que les résidences privées, malheureusement, avec leur personnel de base, sont pas capables de gérer ces éclosions-là parce qu'ils n'ont pas assez de personnel, ils n'ont pas l'expertise. On a appris à Montréal aussi qu'il fallait que les six interviennent rapidement dans ces résidences. Je ne sais pas si c'est le cas dans les résidences qui sont en difficulté actuellement, mais si ça ne l'est pas, ils ont vraiment besoin sûrement là, d'aide d'infirmières et de médecins, plus que ceux qui sont là habituellement, parce que sinon, ce qui arrive, c'est que dans ces résidences-là, ça va se propager rapidement, et ce n'est pas des établissements qui peuvent offrir des soins très, très évolués. Donc, ces gens-là sont transférés dans les hôpitaux, ce qui augmente le nombre d'hospitalisations. Donc, si on peut s'occuper de ces personnes-là sur place dans la résidence, là, c'est vraiment préférable.
Êtes-vous inquiet par rapport à la période des fêtes? Est-ce que ça pourrait générer par rapport à l'épidémie?
Ben oui, c'est certainement inquiétant parce que il s'agit de pas grand-chose, par exemple, dans un CHSLD. Là, il s'agit d'un proche, un employé qui est positif et ça peut se transmettre très rapidement. Il s'agit d'un résident qui est contaminé aussi par une sortie ou par un visiteur. Ça peut se propager très rapidement et probablement encore plus dans les résidences privées parce que les résidences privées, c'est des personnes qui sortent, hein, qui... C'est presque des personnes comme vous et moi, là, seulement qui sont plus âgées. Donc, c'est beaucoup très. Il y a un très grand risque que ça se propage rapidement si on ne fait pas attention. Donc, d'où le besoin de ne pas relâcher toutes les mesures qu'on connaît bien parce que c'est la période des fêtes, parce que sinon, ça va être encore plus difficile après en janvier, février.
Comment voyez-vous le déploiement du processus de vaccination? Est-ce que les personnes âgées doivent être vaccinées en priorité?
Oui, certainement, parce que c'est les personnes qui sont les plus à risque. Ce qu'on voit, c'est que c'est une infection qui, chez la grande majorité des personnes qui ont moins de 70 ans, va être assez facile à passer à travers. Il y en a qui sont quand même très malades. Il y en a qui font de la fièvre pendant 10-14 jours. Il y en a qui ont des toux, des symptômes respiratoires, des symptômes digestifs. Ça arrive même chez les jeunes. On sait que ceux qui sont hospitalisés, c'est surtout les plus âgés. Donc oui, certainement que les personnes plus âgées devraient être vaccinées en premier parce que c'est celles-là qui sont le plus à risque de complications.
Est-ce qu'elles réagissent bien au vaccin, les personnes âgées? Vous avez de l'expérience par rapport au vaccin de la grippe saisonnière, mais Est-ce que, je veux dire, leur système est en mesure de le prendre ou il y a un âge limite pour le vaccin ou c'est même pas un souci?
Il n'y a pas d'âge limite du tout. On sait que plus la personne est âgée et plus elle est malade, moins le vaccin est efficace. Donc ça, c'est une préoccupation. Avec les vaccins d'influenza, on sait maintenant que les personnes réagissent, on sait qu'elles sont protégées. On sait aussi que si elles font la maladie, elles vont le faire moins sévèrement parce qu'elles ont reçu le vaccin contre l'influenza. Avec la COVID, malheureusement, on n'a pas encore ces informations-là. Il y a un des vaccins, là, je crois que c'est le vaccin Moderna qui lui nous a donné des données chez les personnes âgées qui disait qu'ils réagissaient bien, qu'ils étaient bien protégés aussi, mais on n'a pas toutes les données sur tous les vaccins là pour connaître l'efficacité chez les personnes plus âgées. Donc il va falloir avoir ça. Ce qu'on sait par contre, c'est que c'est pas dangereux là, donc il n'y a pas de raison de pas vacciner. On espère que ça va les protéger adéquatement et surtout contre les formes sévères de la maladie.
Est-ce que les avancées en matière de soins, de traitement pour les personnes atteintes de COVID permettent au personnel médical de sauver plus de vies de personnes de 70 ans et plus atteintes de la COVID dans la deuxième vague, Dr. Lucier?
Oui, ben on sait que les personnes, il faut encore là distinguer celles qui sont en CHSLD et celles qui ne le sont pas. Les personnes qui sont soit en résidence privée, qui sont à domicile et qui sont hospitalisées dans les hôpitaux, on sait que la mortalité est moins grande pour plusieurs raisons. Parce que les traitements, on sait beaucoup mieux maintenant comment le traiter. Les avancées qu'on a faites sont gigantesques dans la façon de traiter. Pas nécessairement avec tous ces nouveaux médicaments qui existent, il y en a, mais il y a des médicaments comme les stéroïdes, là, la cortisone qu'on utilise maintenant de façon routinière, qu'on n'utilisait pas avant. On sait que la COVID, c'est une maladie qui va faire des caillots, des embolies. Donc, on va donner des médicaments pour prévenir ça. On sait aussi comment gérer les patients qui ont besoin de soins intensifs. Donc, on sait que les patients hospitalisés meurent beaucoup moins qu'avant. Et ce qu'on voit aussi, c'est que même dans les CHSLD qui sont atteints, la mortalité est moins grande qu'elle était au printemps. Probablement là aussi parce qu'on sait mieux comment les traiter qu'on le savait au printemps.
En conversation avec le docteur David Lucier, qui est gériatre, c'est sûrement pas passé inaperçu dans votre communauté scientifique, puis vous avez probablement pris connaissance de ça bien avant que ça soit diffusé au grand public, mais le fait qu'on constate, c'est un texte de la presse canadienne, là, que pour la première fois au Canada, on a constaté que l'espérance de vie chez les hommes atteint maintenant l'âge de 80 ans. Ça survient 32 ans après que les femmes aient atteint le même plateau en 1987. Quelle est votre réaction à ce constat, Dr. Lucier?
Ben, ce qu'on voit beaucoup dans les dernières années, c'est que la différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes diminue de plus en plus. Il y a déjà eu jusqu'à 5-6 années de différence. Ça diminue de plus en plus. Probablement parce que les hommes ont des habitudes de vie meilleures maintenant. et que la différence aussi dans les habitudes de vie et dans les modes de vie des femmes et des hommes diminue depuis par rapport aux années 50, 60, 80 et même 90. Donc, c'est probablement pour ça que la différence entre les deux diminue. Ce qu'on veut aussi, c'est que l'espérance de vie en bonne santé
oui.
Augmente. C'est pas le cas, malheureusement, toujours. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que les années qu'on gagne en espérance de vie, ce soient des bonnes années. C'est maintenant là-dessus qu'il faut vraiment se concentrer, si on veut, en termes de recherche et de soins, parce que si on augmente l'espérance de vie, mais que c'est des années qui sont pas agréables, c'est peut-être pas ça l'objectif.
Une petite dernière en terminant, docteur Lucier. Est-ce qu'on est équipé comme société pour faire face à ça, au fait que les gens vivent de plus en plus vieux, ou parfois en santé, mais parfois non? Déjà que je pense que du côté des gériatres, là, vous n'êtes pas en surpopulation.
Non, effectivement, on n'est pas en surpopulation. On n'aura jamais assez de gériatres pour s'occuper de toutes les personnes âgées au Québec. Donc, on est vraiment spécialisé pour ceux qui ont le plus de problèmes de santé, mais où on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour tous les services à domicile, pour le maintien à domicile. C'est quand même un très petit pourcentage des personnes âgées qui sont en CHSLD, un peu plus qui sont en résidence privée. On est l'endroit au Canada où il y en a le plus, mais la grande majorité sont quand même à la maison. Puis c'est là qu'on a beaucoup de chemin à faire pour les aider à rester à la maison avec des soins à domicile, mais où on a encore plus de chemin à faire, c'est comme je le disais tantôt, de les aider à rester en santé puis à vieillir en santé le mieux puis le plus longtemps possible. C'est vraiment là-dessus qu'on a beaucoup, beaucoup de chemin à faire.
Et ça se prépare avant d'être vieux, ça, je pense. Merci beaucoup,
ça
docteur Lucier.
Ça se prépare au moment où on est.
Exactement. Docteur Lucier, c'est toujours apprécié. Merci beaucoup de vos commentaires.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Docteur David Lucier, gériatre, qui était à l'émission ce soir.